Le fantôme inexpérimenté par H.G. Wells. Je me souviens très bien des circonstances dans lesquelles Clayton nous raconta sa dernière histoire. Pendant presque tout le temps qu'il parla, il restait assis devant la spacieuse cheminée, sur un siège en vieux chêne, et auprès de lui s'était installé Storm Norson, fumant une de ses pipes en terre qui porte son nom. Il y avait en outre Evans et Wish, cet acteur merveilleux entre tous, qui est aussi un homme modeste. Ce samedi-là, nous étions tous venus au Mermaid Club le matin. Seul Clayton, arrivé la veille, y avait passé la nuit, ce qui d'ailleurs lui fournit le début de son récit. Toute la journée, nous avions joué au golf jusqu'à ce qu'on ne vît plus les balles. Maintenant, après dîner, nous nous trouvions dans cet état de tranquille bienveillance où l'on tolère volontiers qu'une histoire vous soit contée. Quand Clayton commença à narrer la sienne, nous supposâmes qu'il mentait. Et il est bien possible qu'il mentît. Mais le lecteur sera vite à même d'en juger aussi bien que moi. À vrai dire, il débuta sur le ton de l'anecdote banale, et nous pensâmes que ce n'était là, de sa part, qu'un artifice. « Dites donc, » fit-il après avoir longtemps considéré les fusées d'étincelles jaillissant des bûches que Sanderson avait tisonnées. « Vous savez que j'étais seul ici, la nuit dernière. »« Seul, sans compter les domestiques, » rectifia Walsh. « Qui dorment dans l'autre aile du bâtiment, » précisa Clayton. « Eh bien, » il tira quelques bouffées de son cigare, comme s'il hésitait encore à nous faire ses confidences. Puis, le plus tranquillement du monde, il ajouta, « J'ai capturé un fantôme. »« Capturé un fantôme ? Pas possible !» s'écria Sanderson. « Où est-il ?» Et Evans, qui a une immense admiration pour Clayton, et qui, d'un séjour d'un mois en Amérique, a conservé un accent nasillard, s'écria à son tour, « Capturez un fantôme, vous, Clayton. » « J'en suis ravi. Racontez-nous vite cela. » Clayton déclara qu'il allait le faire immédiatement et lui demanda auparavant de fermer la porte. En même temps, il me regardait de l'air de quelqu'un qui veut s'excuser. « Personne n'écoute aux portes, c'est certain, mais il est inutile d'alarmer des gens de service avec des histoires de revenants. Il y a ici beaucoup trop de coins sombres, de placards et de boiseries pour risquer ce jeu-là. Et mon revenant n'est pas le parfait fantôme. Je pense même qu'il ne reviendra plus. Jamais. Mais alors, vous ne l'avez donc pas gardé prisonnier ? Demanda Sanderson. Je n'en ai pas eu le courage, répondit Clayton. Sanderson avoua à sa surprise. Nous nous mîmes à rire et Clayton prit un air chagriné. Je vous comprends, grommela-t-il avec un semblant de sourire. Mais le fait est qu'il s'agissait réellement d'un fantôme et j'en suis aussi convaincu que de notre présence à tous ici en ce moment. Je ne plaisante pas, et je sais parfaitement ce que je dis. » Sanderson, son petit œil rouge fixé sur Clayton, aspira une longue bouffée de sa pipe, puis rejeta un fin jet de fumée d'une façon qui était plus éloquente que bien des paroles. Clayton dédaigna ce commentaire. « C'est la chose la plus étrange qui me soit arrivée de ma vie. Vous savez que je n'ai jamais cru au revenant, ni à rien de ce genre, jamais auparavant. » « Mais voilà que j'en attrape un dans un coin, et il a fallu me tirer de là tout seul. » Il médita plus profondément encore, puis, prenant un cigare, il se mit à le couper avec un curieux petit instrument qu'il affectionnait. « Vous lui avez parlé ?» demanda Walsh. « Pendant une heure environ. »« Conversation amusante ?» questionnai-je en me rangeant du côté des sceptiques. « Le pauvre diable était fort en peine, » dit Clayton, attentif à l'extrémité de son cigare et laissant percer un léger accent de reproche. « Il sanglotait ?» demanda quelqu'un. Clayton poussa un soupir sincère en évoquant des souvenirs. « Seigneur, oui » fit-il. « Pauvre garçon, oui, il sanglotait. » « Vous avez donc cogné dessus ?» sanglota Evans avec son meilleur accent américain. « Jamais je ne m'étais figuré. Quel triste individu pouvait être en revenant ?» dit Clayton, affectant de n'avoir pas entendu. Une fois encore, il nous laissa en suspens tandis qu'il fouillait ses poches pour trouver des allumettes et qu'il allumait son cigare. « Je profitais de la circonstance, » articula-t-il finalement. Aucun de nous ne manifesta d'impatience. Il continua. « Un caractère reste le même, bien qu'il soit désincorporé. C'est là un fait que nous oublions trop souvent. Les gens qui ont des intentions solides, une volonté ferme, produisent des revenants aux intentions tenaces et décidées. La plupart des revenants qui reviennent véritablement doivent en avoir l'idée fixe comme des monomanes, il faut qu'il soit aussi obstiné que des mules, et cette pauvre créature ne l'était pas. » Tout à coup, il leva la tête d'un air assez étrange et son regard parcourut la pièce. « Je dis cela en toute bienveillance, » reprit-il, « mais c'est dans le cas présent l'absolue vérité. Au premier coup d'œil, je jugeai qu'il était faible. » D'un geste, avec son cigare, il souligna sa phrase. « Je lui tombais dessus dans le corridor. Il me tournait le dos et c'est moi qui le vis le premier. Tout de suite, j'ai compris que c'était un revenant. Il était transparent et blanchâtre. À travers son buste, j'apercevais le scintillement des vitres de la petite fenêtre. Outre son physique, son attitude aussi me persuada de sa faiblesse. Il avait l'air de quelqu'un qui ne sait absolument pas ce qu'il veut faire. Il promenait une main sur la boiserie et l'autre tremblotait devant sa bouche. Comme cela. « Quelle sorte de physique avait-il ? » demanda Sanderson. « Maigre. Vous connaissez ce cou de jeune homme qui indique de longues cannelures dans le dos, ici et ici. Et une petite tête mesquine. Des cheveux recroquevillés et des oreilles plutôt difformes. De mauvaises épaules, plus étroites que les hanches. Un col rabattu, un court veston de confection. Des pantalons à genouillères et un peu effrangés aux talons. Voilà l'effet qu'il me fit. Je montai tout doucement l'escalier. Je n'avais pas de lumière, vous comprenez. Les bougies sont sur la table du palier, et il n'y a que cette lampe. J'étais en pantoufles et je l'aperçus en montant. À sa vue, je m'arrêtai court, pour me rendre compte. Je n'avais pas peur du tout. Je crois que dans la plupart de ces histoires, on n'est jamais aussi effrayé ou surexcité qu'on s'imaginerait l'être. J'étais surpris et intéressé. « Seigneur, me disais-je, voilà un revenant, enfin !» Et moi qui n'ai jamais cru un instant en revenant depuis ces derniers 25 ans. Fit Wish. À peine arrivai-je sur le palier qu'il remarqua que j'étais là. Il tourna vivement la tête de mon côté et je vis une figure enfantine de jeune homme, un nez mince et court, une petite moustache recroquevillée, un menton fuyant. Nous restâmes assis un instant à nous dévisager, lui me regardant par-dessus son épaule. Alors il parut se souvenir de ses hautes fonctions. Il se retourna tout à fait, se dressa de toute sa hauteur, projeta sa tête en avant, leva les bras, étendit ses mains ouvertes, tout à fait la manière des revenants, et s'avança vers moi. En même temps, il laissait tomber sa mâchoire et proférait un son faible et bizarre. « Mou, mou !» Non, ce n'était pas du tout effrayant. J'avais dîné copieusement, sablé une bouteille de champagne, et comme j'étais seul, j'avais absorbé peut-être 2 ou 3, peut-être même 4 ou 5 whisky. Aussi, j'étais solide comme le roc et pas plus effrayé que si j'avais été assailli par une grenouille. « Bouh !» répétai-je. « Pas de blague, vous n'êtes pas de la maison, vous. Qu'est-ce que vous faites ici ?» Je le vis tressaillir. « Bouh !» fit-il encore. « Bon, en voilà assez. Êtes-vous membre du club ?» demandai-je. Et afin de bien lui montrer que je ne me souciais guère de ses grimaces, je fis un pas à travers un coin de la pièce pour allumer ma bougie. « Êtes-vous membre du club ? » réitérai-je, le surveillant du coin de l'œil. Il se rangea de côté pour que je ne continue pas à empiéter sur lui, et il prit une attitude déconfite. « Non, » répondit-il à la persistante interrogation de mon regard. « Non, je ne suis pas membre du club. Je suis un fantôme. » « Très bien, mais cela ne vous autorise aucunement à profiter des avantages du club. Désirez-vous voir quelqu'un ? En somme, qu'est-ce que vous cherchez ici ?» J'allumai une bougie d'une main aussi ferme que possible, de crainte qu'il ne prît pour les effets de la peur la légère agitation due au whisky. Le bougeoir à la main, je lui fis face. « Qu'est-ce que vous cherchez ici ? » insistai-je. Il avait laissé retomber son bras, cessé d'articuler son bouhou, et il restait là. Gauche et stupide, fantôme d'un jeune homme faible, idiot et irrésolu. « Je fais le revenant, » balbutia-t-il. « Qui donc vous l'a permis ? » questionnai-je d'une voix tranquille. « Je suis fantôme, » dit-il en manière d'excuse. « C'est possible, mais vous n'avez pas le droit de faire le revenant ici. Cette maison est un respectable club particulier. Souvent, des gens y viennent avec des nourrices et des enfants. Et à la façon insouciante dont vous hantez ce corridor, quelques petits bonhommes buteraient facilement dans vos jambes, et il en tomberait malade de frayeur. Je suppose que vous n'avez pas songé à cela. Non, monsieur, je n'y ai pas songé. Vous auriez dû y songer. Rien ne vous autorise à venir ici, n'est-ce pas? Vous n'avez pas été assassiné ici. Il ne vous est arrivé dans cette maison aucune mésaventure de ce genre. Aucune, monsieur. Mais je pensais que dans un immeuble vieux et plein de boiseries creuses, ce n'est pas une excuse. » Interrompis-je en le regardant sévèrement. « Je vous certifie que vous faites erreur en venant ici, » ajoutai-je sur un ton d'amicale supériorité. Je fouillai dans ma poche, feignant de m'assurer si j'avais mes allumettes, puis, levant la tête, je le fixai de nouveau et repris. « Si j'étais à votre place, je n'attendrais pas que le coq chante et je disparaîtrais tout de suite. » Il eut l'air très embarrassé. « Le fait est, monsieur, » commença-t-il. « Je disparaîtrais tout de suite, » répétai-je, pour qu'il ne se méprît pas. « Le fait est, monsieur, que ce n'est pas ma faute, mais je ne peux pas. »« Comment, vous ne pouvez pas ?»« Ah non, monsieur, il y a quelque chose que j'ai oublié. Je me démène ici depuis le milieu de la nuit passée à me cacher dans les placards et les chambres vides. J'en suis tout ahuri. Je n'avais pas encore fait le revenant, et je ne sais plus comment m'y prendre. Oui, monsieur, j'ai essayé plusieurs fois et ça ne vient pas. Il y a une petite chose qui m'a échappé et je ne peux pas la retrouver. » C'était plutôt renversant, vous comprenez? Il me regardait d'un air si misérable que pour rien au monde, je n'aurais été capable de conserver le ton autoritaire que j'avais adopté. « C'est bizarre, » dis-je, et tout en parlant, je m'imaginais que j'entendais quelqu'un remuer en bas. « Venez donc dans ma chambre et racontez-moi cela, » décidai-je, « car en somme, je n'y comprends rien. » Et j'essayai de le prendre par le bras, mais naturellement, j'aurais aussi bien pu essayer de prendre par la main une bouffée de fumée. J'avais aussi, je crois, oublié le numéro de ma chambre. En tout cas, je me rappelle être rentré dans plusieurs pièces avant d'apercevoir mes valises. C'était heureux que je fusse seul dans cette aile du bâtiment. « Nous y voilà, » fis-je, et je m'allongeai dans un fauteuil. « Asseyez-vous et contez-moi cette histoire. Il me semble, mon vieux, que vous êtes mis dans une singulière position. » Il me répondit qu'il préférait ne pas s'asseoir, qu'il aimait mieux, si cela ne me faisait rien, voltiger à son gré par la chambre. Je n'y vis pas d'inconvénient, et au bout de peu de temps, nous fûmes lancés dans une longue et sérieuse conversation. Bientôt, les fumées des whisky se dissipèrent, et je commençais à me rendre compte que je me trouvais mêlé à une affaire bigrement étrange. Là, devant moi, ce fantôme, en tout conforme à la tradition et silencieux, à part son nombre de voix, voltigeait de ci de là dans la chambre tendue de Perse. J'apercevais à travers lui le brillant des chandeliers de cuivre, les lueurs qui se reflétaient sur le garde-feu de cuivre jaune et sur les angles des cadres, contre le mur. Il me racontait sa misérable petite vie qui avait pris fin depuis peu sur terre. Ses traits ne prouvaient rien de particulièrement honnête, vous savez, mais comme il était transparent, on ne pouvait faire autrement que de dire la vérité. « Hein ?» s'écarouille se redressant soudain dans son fauteuil. « Quoi ?» demanda Clayton. « Sa transparence, qui l'obligeait à dire la vérité, je ne vois pas très bien le rapport. »« Moi non plus, » répliqua Clayton avec une assurance impayable. « Mais c'est ainsi, je puis vous l'assurer. » »« Je ne crois pas qu'il se soit écarté de l'épaisseur d'un ongle de la vérité vraie. » Il me raconta de quelle façon il mourut. Il était descendu dans un sous-sol avec une bougie pour chercher une fuite de gaz. Au moment où il fut ainsi libéré de l'existence, il était, m'apprit-il, professeur dans une institution particulière de Londres. « Pauvre diable, » fis-je. « C'est ce que je pensais aussi. » Et plus il parlait, plus je le pensais. Il avait été sans but dans la vie. Il parla aigrement de son père et de sa mère, de son maître d'école, de tous ceux qui avaient eu quelque rapport avec lui. Trop fragile, trop nerveux, personne ne l'avait bien compris ni apprécié, m'assura-t-il. Jamais il n'avait eu un véritable ami au monde, pas plus qu'il n'avait eu de succès. Il s'était abstenu des jeux et des plaisirs et avait échoué à bien des examens. « Il y a des gens qui sont comme cela, » m'expliqua-t-il. « Chaque fois que j'entrais dans la salle d'examen, je perdais la tête. » Il était fiancé, naturellement, à une jeune personne sensible à l'excès, elle aussi. Quand la malencontreuse fuite de gaz mit fin à ses jours. « Et où êtes-vous maintenant ?» demandai-je. « Pas en enfer. » Il ne fut pas très clair sur ce point. Mais il me donna l'impression qu'il était placé dans une sorte de vague état intermédiaire, dans une réserve spéciale pour les âmes trop neutres et incapables d'un choix positif entre le vice et la vertu. Mais je ne suis sûr de rien. Il était beaucoup trop égoïste et indifférent pour me fournir une idée nette de l'espèce d'endroit, de l'espèce de pays qui se trouve dans l'au-delà. En tout cas, il s'était accoquiné, semble-t-il, avec une bande d'esprits de son genre. Des fantômes de jeunes citadins braillards, munis des mêmes noms de baptême. Ils devaient entre eux parler souvent de faire le revenant et d'exercices semblables. Oui, faire le revenant. Ils se figuraient que ce devait être plein d'aventures amusantes et, malgré cela, ils en avaient tous la bonnette et n'osaient s'y risquer. Ce n'est qu'à force d'instigation et de défis que mon individu avait eu le toupet d'essayer. « Pas possible, » dit Wish, fixant toujours les flammes. « Quoi qu'il en soit, ce sont les impressions que j'ai recueillies, » continua modestement Clayton. « Il se peut sans doute que je fusse alors dans un état peu favorable au discernement. Mais c'est sur cet arrière-plan qu'il se dessina. Il ne cessait de voltiger et de parler avec son petit filet de voix. Il parlait de sa lamentable personne, sans jamais un mot précis, sans jamais un fait clair et net. Il était plus menu, plus insipide, plus idiot que s'il avait été réel et vivant. Seulement, vous comprenez, s'il avait été vivant, je ne l'aurais pas toléré dans ma chambre, je l'aurais expulsé à coups de pied. « Oui, certes, » commenta Evans, « il y a deux pauvres mortels qui sont comme cela. » « Et il est tout aussi plausible qu'ils aient, comme les autres, des fantômes, » remarquai-je. Ce qui lui prêtait une sorte d'intérêt, c'est qu'il paraissait sur le point de mettre le doigt à tout moment sur la difficulté. La fâcheuse aventure dans laquelle il s'était fourvoyé l'avait terriblement déprimé. On lui avait raconté que ce serait une vraie partie de plaisir. C'est dans cet espoir qu'il était venu. Et voilà qu'il n'avait qu'un nouvel échec à ajouter à sa liste. Il admettait d'ailleurs qu'il était un raté sur toute la ligne. Il m'assura, et je ne fis aucune difficulté pour le croire, que tout ce qu'il avait essayé dans son existence n'avait abouti qu'à un parfait gâchis, et qu'il en serait de même pendant l'éternité. Cependant, s'il avait rencontré de la sympathie, peut-être que... Il se tut sur cette idée et me regarda. Puis il me déclara, si étrange que cela pût paraître, que personne, non jamais personne, ne lui avait accordé la somme de sympathie que je lui accordais maintenant. Je devinai tout de suite où il voulait en venir, et je me décidai à le prendre en main et à m'en débarrasser sans attendre. Il est possible que je sois une brute, mais vous comprenez, être le seul ami véritable, le réceptacle des confidences d'un de ces infirmes égoïstes, c'est plus que je n'en puis physiquement endurer. Je me levai brusquement. « Ne vous appesantissez pas trop sur cette situation, dis-je. Ce qu'il vous reste à faire, c'est d'en sortir, et vivement. Prenez votre courage et essayez. » « Je ne peux pas, » gémit-il. « Essayez, » ordonnai-je, et il essaya. « Il essaya, » fit Sanderson, « et comment ?»« Avec des passes, » répondit Clayton, « des passes. Des séries compliquées de gestes et de passes avec les mains. C'est de cette façon qu'il était venu. Et c'est comme cela qu'il lui fallait partir. « Seigneur, quelle peine j'ai eue !»« Mais comment une série de passes pouvait-elle » commençai-je. « Mon cher ami, » interrompit Clayton en se tournant vers moi, et on prononce avec emphase certains mots. « Vous avez la manie de vouloir que tout soit clair. »« Je n'en sais pas davantage. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il les fit, ces passes. Après des essais interminables, il réussit à les faire comme il faut, et il disparut. »« Avez-vous observé attentivement ces fameuses passes ?» demanda lentement Sanderson. « Oui, » répondit Clayton, qui réfléchit un moment. « C'était extraordinairement bizarre. Nous étions là, moi et ce vague fantôme, dans la chambre silencieuse, au milieu de ce bâtiment silencieux et vide, dans cette petite ville endormie et silencieuse. Pas un autre son que nos voix et le faible halètement qu'il faisait en gesticulant. La bougie que j'avais apportée et une autre que j'avais allumée brûlait sur la table de toilette. C'était tout ce que nous avions en fait de lumière. Parfois, l'une ou l'autre lançait pendant quelques secondes une longue flamme mince et comme étonnée. Et cette scène bizarre se déroula. « Je ne puis pas, » gémissait-il. « Jamais je ne... » Et tout à coup, il se laissa tomber dans un petit fauteuil au pied du lit et se mit à sangloter et à sangloter, Seigneur. Quel pleurnichard assommant !« Allons, remettez-vous et prenez courage, » dis-je en faisant mine de lui tapoter l'épaule. Mais ma satanée main passa à travers lui. À ce moment-là, vous comprenez, je n'étais pas aussi alourdi que lorsque j'avais débouché sur le palier. Je me rendis compte en plein de la bizarrerie de la chose. Je me rappelle que je retirais vivement ma main avec un petit frisson involontaire et que je me dirigeais vers la table de toilette. « Allons, remettez-vous et essayez. » Et afin de l'encourager et l'aider, je me mis à essayer aussi. « Quoi ?» s'écria Sanderson. « Les passes ?»« Oui, les passes. Mais... » interrompis-je, frappé par une idée qui m'échappa tout aussitôt. Ça, c'est intéressant, déclarait Sanderson en enfonçant un doigt dans le fourneau de sa pipe. Vous prétendez que votre fantôme vous a révélé, qu'il fit de son mieux pour me révéler la façon de franchir la barrière. Oui, impossible, protesta Wish. Il ne pouvait pas. Ou bien vous seriez parti avec lui. C'est précisément l'objection que je voulais faire, ajoutai-je, retrouvant exprimer ainsi l'idée qui m'avait fui. C'est précisément cela, assura Clayton, ses yeux pensifs fixés sur le feu. Pendant un instant, personne n'ouvrit la bouche. Et à la fin, il réussit. Il me fallut faire toutes sortes d'efforts pour l'empêcher de se rebuter, mais à la fin, il réussit, assez subitement. Un moment, il se découragea et je le saboulai. Puis il se leva brusquement et me supplia d'exécuter la mimique d'un bout à l'autre, lentement, afin qu'il la vît bien. « Je crois, expliqua-t-il, que si je vous vois faire, je reconnaîtrai tout de suite ce qui ne va pas. » Et il le reconnut. « J'y suis, » dit-il. « Quoi, où êtes-vous » demandai-je. « J'y suis, » répéta-t-il, alors d'un air maussade. « Je ne puis réussir si vous me regardez. Je ne le pourrai positivement pas. C'est cela qui m'a gêné en partie dès le début. Je suis si nerveux que vous m'intimidez. » Bref, nous eûmes une petite discussion. Naturellement, je voulais le voir faire. Mais il était aussi obstiné qu'un mulet, et tout à coup, comme je me sentais fatigué, il m'avait épuisé. Je cédais. « Très bien, » fis-je, « je ne vous regarde pas. » Et je me tournai vers la glace, au-dessus de la toilette, près du lit. Il se mit à gesticuler à toute vitesse, et je le suivais très attentivement dans la glace pour saisir le geste qu'il n'avait pu retrouver. Ses bras et ses mains tournaient et s'agitaient comme ceci, comme cela, en avant, en arrière. Ensuite, précipitant son allure, il arriva au dernier de tous ses gestes. On se tient debout et on étend les bras. Et je le vis là, debout, dans cette attitude. Puis, crac, il n'y était plus. Non, il n'y était plus. Je me retournai, plus rien. J'étais seul, l'esprit bouleversé, en face des bougies vacillantes. Que s'était-il passé ? S'était-il même passé quelque chose ? Avais-je rêvé ? Alors, jetant dans le silence une note absurde de réalité, la pendule du palier s'aperçut que le moment était propice pour sonner une heure. Simplement, ping ! Et j'étais aussi grave et aussi sobre qu'un juge, car de la bouteille de champagne et du whisky que j'avais bu, il ne restait plus trace. Je me sentais tout chose, extraordinairement chose. Il examina un instant la cendre de son cigare. « C'est bien exactement ce qui s'est passé, » conclut-il. « Après cela, vous vous êtes couché ?» demanda Evans. « Je n'avais rien de mieux à faire. » Mes regards rencontrèrent ceux de Wish. Nous avions envie de railler, et cependant nous percevions dans la voix et l'attitude de Clayton quelque chose qui nous retenait. « Et les passes ?» s'enquit Sanderson. « Je crois que je pourrais les refaire à présent. »« Oh !» s'écria Sanderson en tirant un canif et en grattant le fourneau de sa pipe. « Pourquoi ne les referiez-vous pas tout de suite ? » insinua-t-il en refermant son canif. « J'y consens, et je commence, » répondit Clayton. « Ça ne marchera pas, » assura Evans. « Mais si ça marche, » fis-je. « Vous savez, » conseilla Wish, en allongeant les jambes, « j'aimerais mieux que vous ne vous y risquiez pas. « Pourquoi ? » questionna Evans. « Il vaudrait mieux s'abstenir, » affirma Wish. « Mais il n'a pas retenu les passes dans leur ordre, » remarqua Sanderson en s'efforçant d'enfoncer un énorme surplus de tabac dans sa pipe. « Tout de même, il serait préférable de s'abstenir, » répéta Wish. Nous discutâmes avec cet entêté qui prétendait que recommencer les passes s'était tourné en ridicule une chose sérieuse. « Mais vous ne croyez pas, » voyais-je. Wish lança un regard vers Clayton, qui contemplait le feu, semblant peser quelque détermination dans son esprit. « J'y crois, » dit-il, « plus qu'à moitié, tout au moins. »« Clayton, » repris-je, « vous êtes trop bon menteur pour nous. Toute votre histoire est excellente, et vous donnez à la disparition finale un aspect vraiment convaincant. Dites-nous, c'est un conte à dormir debout ?» Il se leva, sans prendre garde à ce que je disais, et s'installa, me faisant face, sur le milieu du tapis de foyer. Un instant, il considéra pensivement le bout de ses pieds, fixa ses regards sur le mur opposé, avec une expression attentive, puis leva lentement ses deux mains à la hauteur de ses yeux et commença. Or, Sanderson est franc-maçon, membre de la loge des Quatre Rois, qui se consacre avec tant de compétences à l'étude et à l'élucidation de tous les mystères de la maçonnerie passée et présente. Et parmi les chercheurs érudits de cette loge, il n'est en aucune façon le moindre. Il suivait les mouvements de Clayton avec une curiosité singulière dans ses yeux, reflet rougeâtre. « Ça ne va pas mal, » concéda-t-il quand l'autre eut achevé. « Vous avez à merveille retenu le secret, mais il manque un petit détail. »«
Je le sais, » répondit Clayton, « et je crois que je pourrais vous dire lequel. Eh bien ?»«
Ceci, » répliqua brièvement Clayton en tortillant et en avançant bizarrement les mains.
« Oui. »
« C'est celui-là qu'il avait oublié, » expliqua Clayton. « Mais comment se fait-il que vous... » «
Je ne comprends rien à la plus grande partie de cette histoire et particulièrement à la façon dont vous l'avez inventée, »
déclara Sanderson. « Mais cette série de gestes, je la connais. » Il réfléchit un instant.
« C'est là, » reprit-il,
« une série de gestes qui se rattachent à une certaine branche de la maçonnerie ésotérique. Vous les avez probablement... Ou bien... « Alors ?» il médita de nouveau.
« Je ne crois pas qu'il y ait rien de mal à vous révéler le geste exact. Après tout, si vous le connaissez, c'est bien, sinon tant pis.
« Je ne sais pas autre chose que ce que le pauvre diable m'a permis d'observer cette nuit, » certifia Clayton.
« Allons-y, quoi qu'il en soit, » opina Sanderson en posant très soigneusement sa pipe sur la cheminée. Puis, très rapidement, il se mit à gesticuler.
« Comme cela, n'est-ce pas ?» sanquait Clayton en l'imitant.
« C'est cela, en effet. » approuva Sanderson en reprenant sa pipe.
« Ah, je puis faire maintenant toute la série dans l'ordre, » dit Clayton.
Debout, devant le feu qui mourait, il nous sourit à tous, mais je crus comprendre une sorte d'hésitation dans son sourire.
« Si je commence, » balbutia-t-il.
« À votre place, je ne commencerai pas, » interrompit Wish.
« Bon, quel danger y a-t-il ? » s'écria Evans. « La matière est indestructible. Vous ne pensez pas que des balivernes de ce genre... « Vont envoyer Clayton dans le monde des ombres.
Essayez, Clayton.
Pour ma part, je n'y vois pas d'objection. Essayez jusqu'à ce que vos bras se détachent. »«
Je ne suis pas du tout de cet avis, »
protesta Wish, qui se leva et posa la main sur l'épaule de Clayton.
« Vous m'avez fait ajouter foi à la moitié de cette histoire, et je ne tiens pas à vous voir exécuter ce tour-là. »«
Allons bon, voilà le crédule Wish qui a la venette, » ricanai-je.
« Oui, j'ai peur. »
répondit Wish avec un sérieux réel ou admirablement joué.
« Je suis persuadé que s'il va jusqu'au bout de cette mimique, il disparaîtra. »«
Pouh ! Il ne disparaîtra pas plus que vous ou moi, » m'écriai-je. « Il n'y a pour les hommes qu'une seule façon de disparaître de ce monde, et Clayton a encore 30 ans à vivre avant cela, d'ailleurs. Quel fantôme il ferait ? Pensez-vous que... »
Un brusque mouvement de Wish m'interrompit.
Il se mit à marcher entre les sièges, puis, s'arrêtant soudain devant la table,
« Clayton, vous êtes un imbécile !»
Clayton, avec une expression amusée dans les yeux, lui répondit par un sourire.
« Wish a raison, » dit-il, « et vous avez tous tort.
J'irai jusqu'au bout de ses passes, et quand mon dernier geste sifflera dans l'air, presto, ce tapis sera vide, toute la pièce ici représentera le tableau du plus parfait ébahissement, et un monsieur de 95 kilos, respectablement vêtu, ira pesamment tomber dans le monde des ombres. »
« J'en suis certain, et vous le serez à votre tour.
Je refuse de discuter plus longtemps. Qu'on fasse l'expérience. »«
Non !»
cria Wish, qui fit un pas en avant. Clayton, de nouveau, leva les bras pour répéter les passes du fantôme.
À ce moment, vous comprenez, nous étions tous dans une extrême tension d'esprit,
troublés quelque peu par l'attitude de Wish. Nous avions les yeux fixés sur Clayton, moi du moins, avec une sorte de roideur comprimée, comme si... De la nuque au rein, mon corps avait été changé en une barre d'acier. Cependant, avec une gravité imperturbable et sereine, Clayton se penchait, se balançait, agitait ses mains et ses bras devant nous. Lorsqu'il approcha de la fin, mes dents claquèrent. Le dernier geste, l'ai-je dit, consistait à étendre les bras tout grands et à rejeter la tête en arrière. Quand, enfin, il fut parvenu à ce dernier geste, je n'osais même plus respirer. Appréhension ridicule, certes. Mais vous connaissez l'impression que donnent ces histoires de revenants. C'était après dîner, dans une vieille maison, bizarre et obscure. Réussirait-il par hasard ?
Il demeura ainsi, les bras ouverts, la tête renversée, résolu et souriant dans la clarté de la lampe suspendue pendant un instant prodigieusement long.
Nous restâmes immobiles et figés pendant ce moment, qui nous parut un âge. Puis, de nos poitrines s'exhala,
un bruit qui était à la fois un soupir d'infini soulagement et un non rassurant car, visiblement, il ne disparaissait pas.
Tout cela n'était que baliverne. Il nous avait raconté une histoire extravagante,
en parvenant presque à nous convaincre, et c'était tout. Mais à cette minute même, le visage de Clayton changea. Il changea. Il changea comme change une maison illuminée dont on éteint brusquement toutes les lumières. Ses yeux, tout à coup, devinrent fixes. Son sourire se glaça sur ses lèvres. Il restait debout. Il restait debout avec un léger balancement. Ce moment-là aussi nous parut un âge. Puis, comprenez-vous, les sièges dansèrent, les objets tombèrent, et nous avions tous bondi. Ses genoux ployèrent, il tomba en avant, et c'est Evans qui le retint dans ses bras. Nous ne pouvions en croire nos yeux. Pendant plus d'une minute, aucun de nous ne sut articuler une parole sensée. De toute évidence, il était... Et cependant, nous n'osions pas l'admettre. Je sortis de ma stupéfaction bredouillante pour me trouver à genoux près de lui. Son gilet et sa chemise étaient arrachés, et Sanderson s'assurait de la main si le cœur battait encore. Ce simple fait, imprévu, saisissant, monstrueux, pouvait parfaitement attendre que nous fussions moins émus. Nous n'avions plus à nous hâter de comprendre. Pendant une heure, nous laissâmes son cadavre étendu là, et depuis ce jour, il est demeuré comme une ombre noire et ahurissante à travers ma mémoire. Clayton était réellement passé dans ce monde qui est si près et si loin du nôtre. Il y était allé par le seul chemin que les mortels puissent prendre. Mais qu'il y soit passé par le moyen des incantations du malheureux fantôme, ou qu'il ait été soudain frappé d'apoplexie au milieu d'une farce qu'il nous jouait, comme l'enquête voulut nous le faire croire, c'est une question sur laquelle je ne saurais me prononcer. C'est là une de ces énigmes qui resteront impénétrables tant qu'on n'aura pas trouvé la solution finale de toute chose. Ce que je sais d'une façon certaine, c'est qu'au moment même, à la seconde même où il terminait ses passes, il changea, chancela, et s'abattit devant nous, mort. Ainsi s'achève le fantôme inexpérimenté de H.G. Wells.